Cher Thiago, lorsque Blandine Masson de France Culture a évoqué ton nom pour dire un de mes textes, je ne vais pas te mentir, je me suis dit, avec son accent, il va le saccager. Et puis, le contexte politique aidant, la langue de Molière écrite par un arabe et maltraitée par un portugais, cela m'est apparu soudain comme une idée réjouissante. D'emblée, il me faut préciser que ce texte a été écrit entre le 1er juin et le 30 juin 2024 à 19h59. C'est la raison pour laquelle il ne fait que très peu référence à la situation politique du pays. Pour dire ce texte, tu as le droit à 3 jokers. Lorsque le texte te met mal à l'aise ou lorsque tu es en désaccord total, tu as le droit de dire « Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices de France Culture que ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. » Tu as également le droit de faire 3 commentaires personnels lorsque cela te semble opportun. Mais pas plus, car je sais que tu es très bavard. En revanche, lorsque je dirai du mal de Cristiano Ronaldo et de l'équipe nationale du Portugal, tu n'auras le droit à absolument aucun commentaire. Le français n'est pas ta langue maternelle, et je sais combien c'est difficile de découvrir un texte en direct. Aussi, je te souhaite une bonne lecture, et si tu peux faire un effort en prononçant correctement les « u », ce serait formidable. Enfin, il me faut avouer que plusieurs parties de ce texte ont été générées par ChatGPT, grâce à l'intelligence artificielle. Tu les reconnaîtras aisément. Quand j'ai demandé à l'IA par quoi pourrait commencer ton portrait, elle m'a proposé d'ouvrir avec les trompettes d'Avignon de Maurice Jarre, mais dans une version portugaise de Mauricio Jarinho. Dont acte.
Saudai o sol que desponta sobre um ridente por vir, seja o eco de uma afronta, o sinal de ressurgir. Raios dessa aurora forte são como beijos de mãe que nos guardam, nos sustêm contra as injúrias da sorte. L'instant est solennel. C'est la première fois qu'on entend l'hymne national du Portugal sur France Culture. C'est peut-être aussi la dernière fois. En général, quand on entend l'hymne national, c'est que Cristiano Ronaldo a mis en triplé. Mais malheureusement, l'équipe nationale du Portugal est dans le même état que la gauche française. Bon, je commence. Bonjour, buenos dias, bon dia, guten tag, hallo, kalimera, labdin, zao shang hao, salam alaikum, dobardan, buongiorno. Comme vous pouvez le constater, je suis polyglotte. Et l'auteur de ce texte lui est probablement en manque d'inspiration. Je m'appelle Tiago Rodrigues. D'ailleurs, c'est assez cocasse, car on dit Krombeck, on dit fer d'arcier, ou baudrier, ou encore pis, mais me concernant, je lis souvent Tiago. Au début, je me disais que c'était parce que j'étais très très chaleureux, et puis j'ai entendu qu'on disait aussi Hortense, et non pas Archambault. Là, je me suis dit que bon, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être chaleureux. Je rappelle les auditeurs et auditrices de France Culture que ce n'est pas moi l'auteur de ce texte que je dis à la première personne. Mais peut-être davantage cela avait à voir avec le fait d'être une femme ou un émigré. Voilà, je m'appelle Rodriguez Rodrigues. Je suis entre autres un émigré. Il y a bien sûr différentes catégories d'immigrés, les migrants, les exilés ou encore les expatriés, terme pudique qui désigne plutôt les Français de l'étranger qui cultivent un soft power colonialiste un peu cool. Mais qu'importe, allons à l'essentiel, car je suis également l'auteur de Catarina e a beleza de matar fascistas, Catarina et la beauté de tuer des fascistes. J'ai écrit d'autres textes, c'est vrai, et j'y reviendrai plus tard, mais je crois que c'est le bon moment pour parler de la beauté de tuer des fascistes. Oh là là. Alors, attention, il ne faut pas prendre ici, au pied de la lettre, tout le titre, Catarina et la beauté de tuer des fascistes. Par exemple, j'aurais tout à fait pu écrire Francesca et la beauté de tuer des fascistes, ou Anna Maria, ou Susanna. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Alors, quand j'ai écrit Fatima et la beauté de tuer des fascistes, je ne pensais pas devoir en arriver là. C'était une fable, une fiction. Je n'aime pas quand le théâtre est trop littéral. Il ne faut jamais prendre les artistes au pied de la lettre. D'ailleurs, d'une manière générale, je le dis une bonne fois pour toutes, il ne faut pas croire les artistes. C'est comme les footballeurs. Quand Kylian Mbappé dit « Je suis contre tous les extrêmes », il ne faut pas accorder un crédit démesuré à sa parole. Certes, il faut écouter très attentivement quand il vous explique comment placer le ballon dans la lucarne opposée. Mais dès qu'il parle de politique, il faut regarder ailleurs. Les artistes, c'est pareil. Quand ils vous invitent à tuer des fascistes, c'est pour de faux. D'abord parce qu'ils n'en ont pas le courage. Et par ailleurs, il leur faudrait se procurer des armes. Et pour ça, ils n'ont aucune compétence ni aucun réseau. Tout au plus, ils peuvent dire des banalités comme « la poésie est une arme » ou encore « mes mots sont des couteaux aiguisés ». Auquel cas, il faut leur répondre « tout doux les gars, avec vos mots aiguisés, vous ne pourrez même pas couper un œuf dur en deux, alors calmez-vous ». Si vous voulez parler de révolution, il vous faut parler avec des révolutionnaires. Si vous voulez parler football, Cristiano Ronaldo sera plus pertinent que moi. C'est très français, je trouve, ce fétichisme des artistes. Dès qu'il y a une guerre, un conflit armé, une crise géopolitique, ici en France, on demande à Catherine Deneuve ce qu'elle pense. Je me souviens que pendant le Covid, des gens mouraient par milliers. À l'époque, on avait peu d'informations sur le virus. Et au lieu de demander des analyses à des gens compétents, à des chercheurs, à des infectiologues, à des microbiologistes, à des épidémiologistes, nous, on préfère demander à Juliette Binoche s'il faut ou non confiner le pays. Et j'aime beaucoup Juliette Binoche. Ce n'est pas le problème. Il arrive parfois à des artistes de réaliser des spectacles merveilleux sur des sujets politiques très sensibles, mais il peut arriver dans le même temps, à ces mêmes personnes, de dire des conneries sur ces sujets politiques. Vous voulez des exemples ? Non, je ne souhaite ici nommer personne, mais c'est vrai que si les journalistes pouvaient éviter de tendre un micro à Pierre Arditi et Michel Sardou, cela suffirait à notre bonheur. Et par les temps qui courent, je dois avouer que nous avons le bonheur modeste. J'en reviens aux fascistes. Au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, durant une représentation de ma pièce « Aïcha et la beauté de tuer des fascistes », un spectateur s'est levé pour attaquer l'acteur qui prononçait un discours fasciste. Et j'ai beaucoup aimé que, même en commençant une pièce de théâtre par « Il était une fois », des gens pensent que c'est la réalité. C'est très rassurant, ça veut dire que parfois, le geste d'un artiste peut avoir une influence sur la réalité. Car le problème des artistes, c'est qu'ils travaillent l'art de la parole. C'est très fragile et parfois trop abstrait. Moi, par exemple, en tant que directeur du Festival d'Avignon, quand il y a un problème, je fais un discours. Je ne règle pas le problème. Tout au plus, je fais un bon discours. Ce sont les gens autour de moi qui s'activent pour régler le problème. C'est comme si ma femme me disait « Chérie, il y a une fuite dans le lavabo » et que je lui réponde « Ne t'inquiète pas chérie, je vais écrire un discours. » Et suivant un principe de réalité, elle va me dire « Merci amour, ton discours est très réconfortant, mais tu veux pas qu'on appelle un plombier ?» C'est, je crois, le moment d'écouter. Une première archive familiale en portugais et que je vais vous traduire.
O problema para a minha mãe é que o meu pai conseguiu com que eu saísse a ele. Então, não é só ele que faz discurso em casa, sou também eu. Então, pronto, alguma coisa estraga-se, a minha mãe pede ao meu pai faz um discurso, não arranja, e depois a minha mãe pede-me a mim e eu faço um discurso. Mas pronto, é principalmente para me safar de fazer coisas.
Ça, c'est ma fille Béatrice. Je traduis. C'est vrai, dès qu'il y a un problème à la maison, si ma mère demande à mon père de faire quelque chose, c'est vrai, il fait un discours. Et le problème le plus grand de ma mère, c'est que je tiens à mon père. Alors, quand elle a besoin de régler quelque chose à la maison, elle demande à mon père, il fait un discours, rien se passe. Et après, elle dit, alors, c'est à toi, ma fille, de le régler. Et moi aussi, je fais des discours. Et ça veut dire que rien se règle à la maison. D'où me vient cette propension à toujours faire des discours ? C'est peut-être parce que je suis originaire d'une nation de poètes. Fernando Pessoa, Mario Cesarini, Herberto Helder. On est une nation de poètes et au lieu d'agir, on parle. Nous sommes un pays de gens qui parle. Bien, alors, avec le théâtre français, c'est pareil. L'idéal serait de sortir d'un régime de spéculation imaginaire au profit d'une modalité dramaturgique qui ait un impact concret sur la réalité. Par exemple, qu'à la fin de la tournée de mon spectacle « Magdalena et la beauté de tuer des fascistes », il n'y ait plus aucun fasciste en France. J'éprouverais alors le sentiment d'un travail accompli. Ma mère m'appellerait le dimanche pour me dire « Alors mon fils, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui répondrai sérénement « Rien de spécial, maman, j'éradique le fascisme avec ma dernière pièce et après, je m'occuperai de la crise écologique la saison prochaine. Et en juillet 2025, je réglerai le conflit israélo-palestinien en mettant l'arabe comme langue invitée au Festival d'Avignon. » Ce que l'ONU n'a pas réussi à faire, nous le ferons ici, depuis le Vaucluse. J'en reviens aux fascistes. Ce n'est pas une obsession, hein. Disons que, venant du Portugal, j'ai une petite sensibilité à la fibre autoritariste. Je crois que si majoritairement vos parents vous transmettent des gènes, ils se glissent toujours dans votre héritage quelques réflexes pour votre survie politique en période de dictature. et j'ai la chance d'avoir vécu sous une dictature. Là, je vais faire un commentaire. Premier joker. Ouais, je suis né 3 ans après la révolution des œillets. Je pourrais jamais dire que j'ai vécu sous une dictature. La pudeur m'empêcherait, et en plus la dette envers les gens qui ont souffert pour que je puisse naître en liberté m'oblige à le dire. Fin de commentaire. Le mot « chance » n'est pas le plus approprié, mais disons que je suis vacciné du fascisme et que je n'ai en aucun cas besoin d'une piqûre de rappel pour mon arrivée en France. Je disais que je viens d'une nation où les gens parlent et écrivent des poèmes, mais il y a eu pourtant la révolution des œillets. Toute mon enfance, j'ai oscillé dans ma famille entre ceux qui parlaient et ceux qui agissent, mais aussi entre ceux qui dénoncent et ceux qui se font complices. De ce point de vue, mon baptême est emblématique. Oui, parce que je suis baptisé, mais quand on a 3 ans, on ne décide pas, hein? Et donc, c'est un peu à l'image de bon baptême. Quand on reçoit de l'eau bénite sur nous, ce fut une sorte de négociation au sein de ma famille entre 2 tendances. La partie de ma famille qui est, disons, de droite et qui avait exigé un baptême. Et le côté, disons, de gauche qui disait, ça va, c'est pas dramatique, il peut être baptisé, mais à condition que ce soit un 1er mai. Et quand on regarde la photo de famille de mon baptême, on voit qu'une partie de ma famille arbore des petits œillets rouges à leur veste, comme un petit message subliminal qui dit « on n'est pas dupe, on s'accommode de Dieu tant qu'il y a un doute sur la possibilité que Dieu soit de gauche et antifasciste ». C'est une photo qui résume politiquement la division familiale. J'en reviens aux fascistes. Grâce à Salazar, mon père et ma mère ont trouvé un combat commun très fort. C'est sans doute l'avantage avec les fascistes. C'est ce qui permet de resserrer le lien au sein des couples. J'ai donc la chance d'avoir vécu en démocratie grâce à la génération de mes parents. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'indigner quand on vit dans une démocratie, mais qu'au contraire, on a le devoir de s'indigner pour ne pas laisser mourir cette démocratie. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air d'insister sur le fascisme, mais quand j'écris « Barbara et la beauté de tuer des fascistes », sur la montée de l'extrémisme d'extrême droite et du populisme d'extrême droite, je m'interrogeais sur la place de la violence comme possibilité de défense de la démocratie, soit à travers la lutte armée, soit à travers des actes politiques violents. Mais au fond de moi, j'espérais que cette pièce perdrait de son actualité. Que nos enfants puissent se dire un jour « Mais quelle mouche l'a piqué pour écrire cette fantasmagorie ?» Pour en revenir plus précisément à ma pièce, « Rachida et la beauté de tuer des fascistes », je l'avais imaginée comme un portrait dystopique de la société portugaise en 2028, où le résultat des élections législatives donnerait une majorité absolue à l'extrême droite d'inspiration fasciste. Et quand j'ai commencé à écrire la pièce avant le Covid, en mars 2020, j'écrivais très nourri par le fait qu'au Portugal, lors des législatives d'octobre 2019, il y avait eu, pour la première fois depuis la Révolution et le début de la démocratie, un élu d'extrême droite à l'Assemblée nationale portugaise. Ça a été un choc pour moi, comme pour beaucoup de Portugais qui vivaient comme une fierté de pouvoir dire qu'au Portugal, l'extrême droite n'a pas d'expression, on est immunisé face à ce fléau européen. Mais soudain, on l'était plus. On l'était plus. Pour la première fois, il y avait une expression, une représentativité de cette force antidémocratique que l'on peut encore trouver dans la société portugaise. C'est à la fois un résidu presque archéologique de 48 ans de dictature, mais aussi une tendance populiste du XXIe siècle, qu'on retrouve chez Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, Orbán en Hongrie, Duda en Pologne, Geert Wilders aux Pays-Bas, Meloni en Italie. C'est terrible, j'ai le sentiment que cette liste pourrait durer 10 minutes. Bref, dans beaucoup de pays européens. J'en reviens à blablabla et la beauté de tuer des fascistes. C'est l'histoire d'une famille où la moralité est inversée et où les gens tuent chaque année lors d'une grande fête en fasciste qu'ils ont kidnappé. Et c'est très, très drôle. C'est une tradition qui dure depuis 60 ans. Dans la pièce, c'est le jour d'assassiner son fasciste et la famille s'est réunie dans la maison familiale au sud du Portugal. Mais étrangement, la jeune fille de la famille qui doit tuer pour la première fois a des doutes et elle les exprime. Le conflit explose, la famille se désintègre lorsque Katharina se demande si ce n'est pas une erreur fondamentale de tuer quelqu'un et si toutes les vies ne se valent pas, même celles d'un fasciste. C'est pour moi une question fondamentale que la valeur de la vie. Par exemple, une vie palestinienne vaut-elle une vie israélienne? Et j'ai conscience que le simple fait de formuler cette question, une vie palestinienne vaut-elle une vie israélienne, est devenu un sommet de radicalité politique. Sans doute parce qu'il se trouve que la réponse est dans la question. Bon, finalement, c'est quand même plus simple de parler de la montée du fascisme en France. Bref, je vous propose une petite pause culturelle. Parlons d'un sujet moins polémique. La critique au Festival d'Avignon. Certes, cette année, un journaliste a porté plainte contre une artiste pour injure publique. En tant que garant de cette institution, moi, Thiago Rodriguez, je n'opposerai jamais la liberté de création des artistes et la liberté d'expression des journalistes. Aussi, je fais confiance à la justice de notre pays, votre pays, pour nous dire si Stéphane Capron, Armel Héliot et Fabienne Darche, notamment, on était injustement maltraité par l'artiste Angélica Liddell. Voilà, me semble-t-il, ce que peut être une position d'apaisement, contrairement à celle de l'auteur-metteur en scène Mohamed El-Khatib, qui, le lendemain de l'affaire, m'a adressé le SMS suivant, 2 points, ouvrez le guillemet. Franchement, si on devait porter plainte à chaque fois que Thibaudat, Lucille Como ou Andy Atkin disent de la merde, on n'en finirait pas. Fermez les guillemets. Mais je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que ce qu'il a voulu exprimer maladroitement, c'est que les artistes ont évolué. Ce qui se passe sur les plateaux de théâtre a évolué, alors que le corps critique est toujours issu du même moule petit bourgeois, très peu politisé et un peu fragile, parfois curieusement réactionnaire, et qui par moments peine à dissimuler en léger mépris. Bref, cette polémique est une tempête dans un verre d'eau. Voilà, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il le dit avec ses mots à lui, et vous savez parfois que les mots manquent. D'ailleurs, je le dis souvent, quand vous n'avez pas le mot, il ne faut pas hésiter à emprunter ceux des autres. C'est le moment, je crois, de vous faire part d'une expérience avec ChatGPT. J'ai écrit le prompt suivant. Qu'est-ce qui distingue le théâtre de Mohamed El-Khatib de celui de Thiago Rodriguez? Cette expérience est véridique. Je précise qu'il s'agit de la version payante de ChatGPT. Voici le résultat de cette intelligence artificielle. Deux points, ouvrez les guillemets. La différence entre Thiago Rodriguez et Mohamed El-Khatib, point d'interrogation. C'est un peu comme comparer un pastel de nata à une pastilla, mais avec une dramaturgie théâtrale. Thiago Rodriguez est le maestro portugais de la feijoada, qui sait jongler avec les mots comme un torero avec sa cape. Il a le flair pour transformer les scènes en véritable festin culturel où chaque dialogue est une morue délicieusement préparée. Quant à Mohamed El-Khatib, c'est le chef marocain du théâtre qui mélange les épices de la vie quotidienne avec une dose généreuse d'humour et de réalité. Ses spectacles sont comme des tagines, riches en saveurs et en émotions, mijotées lentement pour en révéler toute la profondeur. Donc, si vous voulez un théâtre qui danse comme le fado, c'est donc Rodriguez qu'il vous faut. Si vous préférez une aventure épicée qui vous transporte au cœur des souks, El-Khatib est votre homme. En somme, c'est choisir entre un vin de Porto et un thé à la menthe. Dans les deux cas, vous êtes sûr de passer un excellent moment. Fermez les guillemets. Didascalie, laissez un bref silence perplexe. C'est sûr qu'à la radio, les auditeurs arrivent à distinguer la nuance entre un silence et un silence perplexe. Alors oui, moi aussi, je suis perplexe devant autant d'intelligence artificielle. Il semble que ChatGPT n'ait pas attendu le déferlement du Rassemblement national pour tenir des propos légèrement teintés de racisme. On pourrait également se demander pourquoi l'intelligence artificielle cultive un humour de droite. Nouveau prompt ChatGPT effectué le 2 juin 2024. Comment devrait réagir le Festival d'Avignon sous un gouvernement Rassemblement national? Réponse, ouvre les guillemets. Imaginez le Festival d'Avignon sous un gouvernement du Rassemblement national ouvre la porte à des nombreuses spéculations et scénarios possibles, bien que cela reste hautement hypothétique. Fermez les guillemets. On voit que ChatGPT est doté d'une véritable vista politique. Je referme la parenthèse. Et l'intelligence artificielle de conclure. Sous un gouvernement du Rassemblement national, le Festival d'Avignon pourrait être confronté à des défis majeurs en termes de liberté artistique, de diversité culturelle et de reconnaissance internationale. Toutefois, la réaction et la résistance de la communauté artistique et du public joueront un rôle crucial dans la manière dont ces changements potentiels seront vécus et combattus. Et là, je dois dire que je n'aurais pas écrit mieux. Et pour cause, j'ai découvert que le texte proposé est issu de fragments prononcés par les anciens résistants Edgar Morin et Madeleine Riffaut. C'est donc le moment d'appeler ChatGPT pour ce qu'il est, un logiciel de plagiat. Ça ne crée rien, mais ça copie les œuvres existantes d'artistes existants en les modifiant suffisamment pour échapper aux lois sur le droit d'auteur. C'est le plus grand vol de propriété intellectuelle jamais enregistré depuis l'arrivée des colons européens sur les terres amérindiennes. Bon. Pour vous faire plaisir, je reviens au fascisme. Je sens que c'est une question qui vous préoccupe. Je pense qu'on ne peut pas dialoguer avec les fascistes, mais qu'on peut dialoguer avec ceux qui votent pour eux. Quand j'écris Zubida et la beauté de tuer des fascistes, j'ai pensé à ce slogan qui dit « On est chez nous ». Et le problème, c'est que dès que vous dites « nous », c'est le début des emmerdes. Il faudrait faire comme au football. Je ne sais pas si vous avez vu le match France-Portugal. Je ne commenterai pas ici le résultat, Les plus grands spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une injustice historique. Mais je ne veux pas polémiquer. Quand la France a été championne du monde, tout le monde disait « nous sommes champions du monde ». Pourtant, aucun d'entre vous ici n'a chaussé de crampons et personne ici n'a fait la passe à Kylian Mbappé. Tout au plus, vous avez bu de la bière et vaguement crié « Allez les bleus !» Pourtant, tout le monde dit « On a gagné !» Or, et je crois que c'est aussi la force du théâtre, de créer un endroit où l'on peut définir un « nous ». Un « nous » qui fait de la place à toutes et tous. Un « nous » plein d'hospitalité, pas un petit « nous les Français », non. Un « nous » humaniste, avec notre part de barbarie et d'amour. Alors l'art peut servir à ça, écrire et raconter une nouvelle histoire. Voilà. Je trouve que ce texte est assez généreux. Ce n'est pas un commentaire personnel, hein. Il a vraiment écrit « Je trouve que ce texte est assez généreux ». C'est, je crois, le moment d'une pause musicale. J'aimerais en profiter pour vous faire écouter une archive. J'ai demandé à ChatGPT le prompt suivant. Quelles sont les deux passions de Thiago Rodriguez? La réponse a été le fado et Mitterrand.
Pour tous les Français qui l'aiment et qui l'admirent, mais aux yeux du monde entier, Elle est une de ces incarnations du génie artistique d'un peuple qui se compte sur les doigts d'une main. Oum Kalsoum, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Bessie Smith, Maria Callas et bien sûr Edith Piaf. Et c'est là depuis maintenant 50 ans. D'autre part, avec Paris, elle vit depuis longtemps déjà aussi une histoire d'amour. Un poète a écrit sur elle « Tu es fille de Camoens ». Fille de la reine morte, voix étranglée de portugaise qui chante notre immense petit pays avec des oranges et des quartiers de tristesse. Elle-même chante. Je porte en moi des fados, des tristesses dans le cœur. Je traîne mes rêves perdus à travers des nuits de solitude. Je souffre en moi les vers et les notes d'une grande symphonie jouée dans tous les tons de la tristesse et de l'agonie. Je porte en moi des nuits de clair de lune, des plaines jonchées de fleurs, je porte le ciel et la mer et des douleurs encore plus grandes. Je porte en moi des amertumes mélangées, une lucidité et une faiblesse. Je garde les yeux secs, bien qu'ils ne cessent de pleurer depuis que je suis enfant. Nous allons retrouver tout de suite Amalia Rodriguez, mais actuellement, ses musiciens lui donnent l'aubade.
Je crois qu'il y a eu une erreur avec l'archive. Je pensais au moins qu'il mettrait le vrai Mitterrand, celui qui a incarné la gauche et qui, naturellement, a fini par la trahir. Ainsi va l'histoire de la gauche en Europe. Je lui en veux énormément. Et souvent, c'est l'antiracisme qui s'est perdu en route. Souvent, le racisme provoque de la honte, une honte de soi. J'en ai gardé une expérience indélébile, celle d'une forme de rage. Il est bon de l'écrire quand certains tiennent encore à déguiser leur petite lâcheté en élégance d'âme. Si le fascisme devait nous apprendre quelque chose, c'est sans doute cela. Face à une armée de fascistes, il nous faut une armée d'antifascistes disciplinés, déterminés à ne rien céder, à ne pas trahir, fermes et Inamiko, ainsi que Bertolt Brecht l'écrivait. Inamiko, tandis que nous préparions le terrain à l'amitié. Ne pas brûler les étapes, donc. L'amitié, c'est l'horizon. Aujourd'hui, c'est l'alarme, comme le dit le chant des partisans. Alors, parler de l'intransigeance face au fascisme, c'est aussi... penser à mon père. Rogério Rodrigues est né le 17 février 1947. Il était journaliste. Et quand on demandait à ses collègues de décrire sa conduite, ils utilisaient les termes intégrité, justice, loyauté et fraternité. Et s'il y a quelque chose dont je suis fier, c'est que mon père ne supportait aucun adjectif. Et puis arrive toujours un moment où, pour se faire une petite place, il faut tuer le père. Mais au Portugal, la psychanalyse, ça ne fonctionne pas pareil. Ce n'est pas le père qu'il faut tuer, c'est la grand-mère. Alors j'ai commencé par ma grand-mère. C'est elle qui m'a véritablement fait entrer en écriture. J'ai aimé follement ma grand-mère qui était cuisinière pour deux raisons, la nourriture et les mots. Alors, la nourriture, je crois que ça se voit. Mais ne faut pas interpréter mon léger surpoids pour de la gourmandise, il s'agit plutôt d'un geste politique. Car si un jour il faut faire barrage à l'extrême droite, disons que je pourrais faire barrage avec mon corps. Et donc, plus vous mangez, plus le barrage est solide. Voilà, c'est ça. C'est presque une forme de sacrifice antifasciste. Ma grand-mère s'appelait Candida. C'était une femme modeste, son hospitalité était sans limite. Le peu qu'elle avait, elle le partageait. Et l'amour des mots me vient de Candida. En vieillissant, elle a appris qu'elle devenait aveugle. Alors elle m'a chargé d'une mission, choisir un livre à apprendre par cœur avant de perdre la vue. Ma grand-mère a grandi et vécu dans un village isolé, à l'écart d'un monde lettré. Une sorte de double solitude. C'est le village de mon enfance. En invitant le public à apprendre par cœur en poème, je proposais d'une certaine façon de perpétuer le geste de ma grand-mère et de faire exister sa voix pour l'éternité. Et si elle n'est sortie de son village que deux fois dans sa vie depuis la création de mon spectacle, elle a, malgré elle, visité plusieurs continents grâce à ce sonnet de Shakespeare que j'ai fait apprendre à des milliers de personnes à travers le monde. Elle était en vie lors de la création et puis elle s'est éteinte pendant que je jouais. J'étais en France le soir où elle est décédée. Le 15 février 2016, j'ai écrit « Queridos amigos, a minha avó Cândida, que muitos de vocês conhecem através do meu trabalho, partiu ontem. Chers amis, ma grand-mère Cândida, que beaucoup d'entre vous ont connue à travers mon travail, nous a quittés hier. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. Ce que je crois, le moment que je vous récite par cœur, ce sonnet 30. Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis. Je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Des larmes oublieuses, mon œil alors se noie pour les amis scellés dans la nuit de la mort, rouvre le deuil de l'amour morte et s'apitoie au réveil sépulcral des intimes remords. Je souffre au dur retour des tortures souffertes. Je compte d'en douala, de douleur en douleur, le total accablant des blessures rouvertes, et j'acquitte à nouveau ma dette de malheur. Mais alors, si mon âme, amie, vers toi se lève, tout mon or se retrouve et tout mon deuil s'achève. Je pensais arrêter le spectacle, mais il me restait encore quelques dates à faire. Alors je suis parti jouer à Madrid, pensant que ce spectacle n'avait plus aucun sens. Mais contre toute attente, quelque chose a continué à vivre de son geste de lecture, de son amour filial. La pièce est devenue une métaphore de notre amour réciproque. Nombre de personnes qui connaissent mon travail pourraient dire « Si tu vois « By Heart » de Tiago Rodriguez, tu n'es pas obligé de voir le reste, il y a tout dedans. » Et c'est sans doute vrai. Cette pièce est un manifeste de l'amour inconditionnel et elle contient tout mon ADN. Je n'arriverai plus jamais à faire aussi bien. Raconter des histoires est un métier aussi vieux que la création de Jérusalem. D'ailleurs, c'est ce qui rapproche le travail des auteurs de la question israélo-palestinienne. Parfois, dans le processus d'écriture, vous commencez une phrase sans savoir où vous allez, et parfois, il vaut mieux savoir renoncer et rebrousser chemin. J'en reviens donc au métier d'acteur, c'est moins polémique. J'ai débuté ma carrière d'abord en tant qu'acteur, mais assez rapidement, je me suis orienté vers l'écriture et la mise en scène. Pourquoi pas une carrière d'acteur? Le manque de talent est une hypothèse sérieuse. Merci, Mohamed. Je me souviens qu'à la fin de ma première année au conservatoire, j'ai été convoqué par mes professeurs qui m'ont dit « Tu vas passer en deuxième année, mais nous, on te conseille d'arrêter le théâtre, ce n'est pas pour toi. » J'ai demandé conseil à un acteur plus âgé que moi, un très bon ami, Est-ce que tu penses que je peux devenir quelqu'un de bien au théâtre? Quelqu'un de bon pour le théâtre? Il m'a répondu, et il m'arrive encore d'y penser, la question n'est pas de savoir si tu es bon pour le théâtre, mais si le théâtre est bon pour toi. Mais moi, je te le dis, je t'aime vraiment beaucoup, mais je pense que tes professeurs ont raison. Après, si t'aimes bien le théâtre, fais-toi plaisir, mais ne pense pas que tu le fais pour la cause du théâtre. Bon, voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé de continuer à faire du théâtre. En 2003, j'ai cofondé avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito, un monde parfait. Pourquoi? Parce qu'il me semblait, à l'époque, que le monde était parfait. Et je n'ai pas changé d'avis. Pourquoi? Je ne suis pas naïf, je ne suis pas déconnecté de la réalité. Je vis dans le même monde que vous, mais je pense toujours à cette citation un peu désuète qui disait à peu près « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple ?» Ce monde est imparfait, mais il est le nôtre. Et quand je parle, j'ai toujours le sentiment de m'adresser au jeune Thiago que j'étais, à cet enfant lunaire qui je suis resté aussi. J'ai découvert l'écriture vers les 12-13 ans. Mon père m'a dit un jour, tu étais un enfant bizarre. Au lieu de dessiner des maisons et des nuages, toi enfant, tu dessinais des hommes politiques. Tu faisais des collages de journaux et peut-être qu'enfant, j'écrivais déjà des discours. La non-arrivée du Rassemblement national au pouvoir m'évite de devoir faire un discours. Je n'aurais pas réglé le problème, mais j'aurais probablement fait un discours. Je crois que c'est aussi une façon de ne pas se cacher. Face à l'adversité politique, trop souvent, on ferme les yeux, comme quand les enfants se cachent sous les tables et qu'ils ferment les yeux, pensant alors qu'on ne les voit pas. Depuis les élections législatives, nous traversons une légère respiration qui met fin à une séquence politique lourde pour nous tous. J'aimerais la clore par un discours. Pas un texte antifasciste, je l'ai déjà fait, et je le referai chaque fois que ce sera nécessaire, non? J'aimerais vous dire une parole d'espoir. Je vais vous faire une confidence. J'ai 47 ans et tous les dimanches matins, j'appelle ma mère. Certains vont à la messe, moi, j'appelle ma mère. Et je crois qu'elle me fait le même effet que l'Église, le sentiment d'être là depuis toujours et à mesure que l'on grandit, une fréquentation qui se réduit. Mais un attachement toujours demeure et je crois que c'est de là que je tire de la force et de la confiance pour aimer l'autre. Des enfants viennent de naître autour de moi. Ils ont à peine quelques mois. Ils et elles se prénomment Azadeh, Félix, Lina, Sabri, Suzy. J'aimerais m'adresser à ces très jeunes enfants. Une de mes plus grandes joies est de faire un métier que j'aime. Je fais partie d'une minorité d'êtres humains qui font un travail qui les passionne. C'est une chance que je prends comme une responsabilité vis-à-vis des personnes qui n'ont pas ce privilège. Alors bien sûr, il y a le hasard des rencontres. Parfois, vous faites des rencontres qui vous sauvent la vie. Parfois, il y a votre audace qui peut vous faire déplacer des montagnes. Mais surtout, il y a les gens qui prennent soin de vous. On ne fait rien seul, jamais. Même quand j'ai le sentiment d'écrire seul, je suis très entouré. Des gens qui m'aiment ou qui m'ont aimé, et sans eux, je ne suis rien. L'amour, l'amitié, la tendresse sont un refuge précieux. J'aimerais dire ça à ces enfants. Les nouvelles de ce monde ne sont pas très bonnes. Vous arrivez probablement au pire moment. Mais ne vous inquiétez pas, on nous a dit la même chose. Vous arrivez avec ce paradoxe merveilleux. Les enfants qui naissent aujourd'hui en France, les petites filles notamment, ont une espérance de vie de 103 ans. 103 ans. Alors que la vérité est qu'on ne sait pas dans quel état sera la Terre dans 103 ans. Vous n'échapperez probablement à aucune des crises politiques, écologiques, sociales que nous traversons. Peut-être que vous, Azadeh, Lina et Suzy, il vous faudra encore tuer des fascistes. Sans doute, vous ferez mieux que nous. D'abord parce que vous n'aurez pas le luxe de ne pas avoir de conscience politique, mais aussi parce que ce monde vous appartient. Il sera ce que vous en ferez. Chaque fois que vous ferez le pari de l'inconnu, de l'étranger, chaque fois que vous prendrez soin de quelqu'un, vous ne rendrez pas ce monde parfait, mais vous le rendrez meilleur. Et malgré les causes politiques brûlantes, j'espère que vous pourrez vivre vos histoires d'amour avec qui vous voudrez et comme vous le voudrez. Qu'une vie palestinienne, une vie française, une vie suédoise, une vie turque, une vie américaine, une vie colombienne, une vie éthiopienne, une vie tchétchène, une vie norvégienne, une vie vietnamienne, une vie namibienne. Que pour toujours, une vie vaille, une vie vive la République et le bacalhau. Pour ce texte, l'auteur tient à remercier à Sybille Harley, Isabelle Abreu et Tonin Kitt. Vous aurez reconnu des citations de Louisa Yousfi, Marina Rollman, Noam Chomsky, Fanny Tchaïe, ChatGPT et à peu près Jacques Prévert. Merci.
Il y a juste un tout petit bonus, ça ne se pratique pas habituellement, mais là, il se trouve qu'on a trois questions d'auditeurs, d'auditrices en l'occurrence. On a une première question d'une auditrice lisboète. Si tu veux bien, Thiago, traduire la question et y répondre.
Então, quando eu era pequena, eu ajudava muito a memorizar texto, ficava sempre com o guião nas mãos e ia corrigindo sempre que te enganavas com uma palavra, ou uma frase, ou mudavas a ordem, e tenho só curiosidade se isso era mesmo algo que te ajudava, ou se, pronto, era uma coisa que fazias porque eu era uma criança e queria fazê-lo, até porque eu acho que acabou por me deixar uma pessoa um bocado irritante, portanto, era fixe saber que te ajudou mesmo enquanto ator.
C'est encore une fois la voix de ma fille, auditrice de France Culture, qui, depuis Lisbonne, me demande... Quand j'étais petite, tu me demandais de t'aider à apprendre le texte par cœur et à te corriger vraiment d'une façon très rigoureuse le texte, en suivant le texte et toujours intervenant pour que ça soit vraiment très rigoureux. Et tu me faisais participer à ce processus d'apprentissage par cœur. Et je voudrais te demander, elle a 22 ans aujourd'hui, je voudrais te demander si tu le faisais parce que tu avais vraiment besoin pour ton travail, ou c'était juste pour avoir des interactions avec moi ou me donner à connaître le théâtre, le texte, parce que en plus ça a aidé à me rendre une personne qui est aujourd'hui un peu embêtant pour les autres à cause de la rigueur et de la correction que je fais toujours aux autres. Et je voudrais bien savoir que si ce trait de caractère qui me définit aujourd'hui, si tu avais vraiment besoin ou si c'était pour le plaisir d'être avec moi. J'avais vraiment besoin du plaisir d'être avec toi.
Alors, on a une deuxième question qui nous vient de la plaine de l'Alentejo, d'une actrice portugaise.
Meia-noite e 35, dentro de uma casa de fadas, a tentar deixar aqui uma questão. Tiago pergunta: porquê é que tu escolhes sempre ficar no lugar daqueles que não se calam? Porquê é que tu achas que é importante as pessoas não se calarem, continuarem a falar? Porque o mundo e as pessoas têm cada vez mais medo de falar. E, portanto, muitas vezes é mais simples ficar em silêncio. E aqui não é porque não te calhas, é porque é que tu achas que é importante continuar a falar. Beijos. Olha a guitarrinha portuguesa, ouviste? Beijinho.
Encore, il y a énormément d'auditrices de France Culture à Lisbonne. Encore une auditrice de France Culture à Lisbonne qui, à minuit 35, dans une maison de fado, me demande... pourquoi tu décides toujours te mettre à la place de ceux qui parlent au lieu de ceux qui se taisent et elle précise que c'est pas une critique, c'est pas que je pense que tu dois te taire, mais cette demande là ouais, bah, déjà parce que c'est ma façon de participer au monde, clairement je suis pas plombier, je fais des discours, je parle et je suis bavard en plus. Mais je pense qu'elle fait plutôt référence à prise de parole citoyenne. Et dans ce sens-là, c'est ce que j'ai mentionné dans le seul joker que j'ai utilisé. Je pense que le cadeau le plus important qu'on peut faire à ces jeunes filles qui naissent autour de moi et à qui je m'ai adressé par le bilan du texte de cet auteur franco-marocain à mes côtés. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à ces jeunes générations, c'est de comprendre la dette qu'on a envers ceux qui ont... souffert, risquer la vie, qui se sont battus, qui ont sacrifié énormément d'opportunités pour que nous, on puisse vivre en démocratie et ne pas être obligés de se taire. Alors, prendre parole, c'est pratiquer cette gratitude envers ceux qui se sont battus et être heureux par l'exemple et pouvoir transmettre ce trésor à des prochaines générations. Se taire, c'est cacher ce trésor.
Et la dernière remarque, c'est pas une question, c'est de la part d'un auteur franco-marocain au sommet de son art, au Festival d'Avignon, qui, après t'avoir écouté, s'est dit sans doute que je viens de trouver ton épitaphe, ce qu'on pourrait mettre sur ta tombe. Tiago Rodriguez, un discours de moins. Est-ce qui nous obligerait, est-ce qui obligerait les jeunes générations à combler le vide et à devoir faire des discours? Merci Tiago.
veux juste, après vous pourrez re-applaudir encore plus fort, je voudrais juste saluer Louise Loubrieux, la réalisatrice, et toute l'équipe technique est avec elle. Je vois Pierrick dans la cabine et je vois Justine, l'assistante, parce que tout a été improvisé. Et donc, la générosité de tout improviser ce matin, parce que évidemment Mohamed a dit c'est juste un texte, mais évidemment il y avait une trompette, évidemment il y avait des archives, évidemment il y avait des téléphones, évidemment il y avait plein de choses. Et merci à toi Louise avec toute ton équipe d'avoir embarqué tout ça. Merci à Mohamed, merci Thiago, merci vraiment.